C'est un des grands spécialistes de l'autisme, chercheur et clinicien, le professeur Laurent Mautron a quitté la France il y a 20 ans pour fuir l'approche psychanalytique de l'autisme, critique des interventions comportementales précoces intensives. Il considère l'autisme non pas comme une maladie à guérir, mais comme une façon différente d'appréhender le monde. Laurent Mautron se propose de refonder les principes d'une intervention auprès des enfants autistes basée sur les connaissances en neurosciences cognitives. Il est mon invité dans un instant et j'attends dès maintenant vos messages sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, la TAC. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, le prix Nobel de chimie. Et donc, on le sait maintenant, il est français.
Et oui, Jean-Pierre Sauvage est avec nous tout à l'heure en direct, récompensé ce matin pour ses travaux sur les machines moléculaires. On découvre ce domaine passionnant avec lui dans un instant.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Mahmoud Mebarek.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Laurent Mautron.
Bonjour.
Vous êtes clinicien et chercheur et vous proposez de refonder la perception de l'autisme dans ce domaine qui est très sensible évidemment pour les enfants comme pour leurs parents. Les dérives ont été nombreuses.
L'histoire de l'intervention en autisme est une longue suite de dérives qui ne se ressemblent pas entre elles mais qui ont à peu près tout en commun d'être mal fondées scientifiquement et d'être éthiquement discutables.
Ouais, aujourd'hui, on a vraiment de bons outils scientifiques justement avec les neurosciences pour pouvoir parler autrement de l'autisme.
Et on a de meilleurs moyens de comprendre l'autisme, mais pour ce qui est d'intervenir sur l'autisme, ça n'est pas à la hauteur de la compréhension qu'on a des mécanismes.
Allez, on se retrouve dans un instant. Vous publiez l'intervention précoce pour enfants autistes. C'est aux éditions Mardaga. Et vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Le prix Nobel de chimie 2016 est donc en partie français et il récompense cette année, ce prix Nobel, les machines moléculaires.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart and Bernard L. Ferinja for the design and synthesis of molecular machines.
Voilà son nom, Jean-Pierre Sauvage, de l'Université de Strasbourg et du CNRS, qui partage le prix Axel avec un Néerlandais et un Américain.
Oui, James Fraser Stoddart et Bernard Ferinja, Néerlandais.
Ils ont ouvert donc la voie d'une nouvelle chimie dans les années 90. Alors nous devrions avoir Jean-Pierre Sauvage dans un instant. Vous imaginez qu'il est extrêmement sollicité, que son téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Mais je crois qu'il arrive et qu'il est en ligne avec nous dans quelques instants. En attendant, nous allons accueillir un autre prix Nobel de chimie qui a dirigé d'ailleurs sa thèse. C'est Jean-Marie Laine. Bonjour à vous Jean-Marie Laine. Bonjour Jean-Marie Laine. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Jean-Marie Laine?
Oui,
à Strasbourg.
Je suis
là. Bonjour, vous êtes en direct dans la tête au carré sur France Inter. Prix Nobel de chimie, Jean-Marie Laine, en 1987. Jean-Pierre Sauvage n'est pas très loin de vous, je crois. Hein.
Oui, il va venir. Bah, écoutez, il reçoit des coups de téléphone un peu partout. Donc, il va raccrocher, le Japon, je ne sais pas quoi, au téléphone.
Voilà.
Mais il va venir. Bon. Il sera sur une autre ligne.
Vous êtes dans le même bâtiment, donc tous les espoirs sont permis. Puis nous sommes également en ligne.
On est dans le même bâtiment, même au même étage, et il sera bientôt dans le même bureau.
Voilà, donc on va l'attendre dans quelques instants. Et puis en ligne également avec nous, Jean-Marie Laine, c'est la troisième génération, on pourrait dire un petit peu des chimistes. C'est Fabien Durola, de l'Université de Bordeaux, qui a été l'élève de Jean-Pierre Sauvage. Bonjour à vous, Fabien Durola.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Vous me mettez la pression là, de prix Nobel en ligne avec moi.
C'est ça, hein. C'est lourd à porter, mais c'est prometteur là aussi. Jean-Marie Laine, une première réaction s'il vous plaît. Vous qui avez été, je l'ai dit, le directeur de thèse de Jean-Pierre Sauvage et que vous connaissez extrêmement bien.
Ah oui, fort bien, oui.
Il vous entend certainement pas, mais dites-le pour nos auditeurs. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Pierre?
Ah ben, c'est fantastique. Il a été, quand il est venu dans mon bureau, là, au moment de l'annonce, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est une excellente journée. Et puis pour moi, surtout aussi, hein, de voir quelqu'un qui a été élève, ensuite a fait sa carrière, a commencé, hein, été initiateur à un nouveau domaine de la chimie. Moi, c'était très bien. C'est fantastique pour nous.
Fabien Durola, Jean-Pierre Sauvage n'est pas là, donc c'est à vous que revient la tâche de nous expliquer en quelques mots ce que sont ces machines moléculaires.
Alors, une machine moléculaire, c'est avant tout une molécule ou un petit groupe de molécules qui se comportent comme une machine. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer sous l'effet d'un stimulus extérieur, donc qui peut être de la lumière, de l'électricité.
On en trouve dans notre corps des machines de ce type ?
Oui. Les premiers à faire des machines moléculaires, ça c'est la biologie, hein, puisqu'il y a des machines rotatives comme l'ATP synthèse ou des machines qui effectuent des translations comme la kinésine par exemple.
Est-ce que dans notre corps, ces machines ont des buts particuliers ? À quoi servent-elles ?
Ah ouais, elles sont vitales. Hein. L'ATP synthèse sert à la synthèse de l'ATP, donc qui est la molécule de l'énergie dans le corps, donc qui est le fuel en fait de tout système vivant. La kinésine, elle, sert à transporter des choses à l'intérieur des cellules, donc elles sont toutes primordiales évidemment pour la vie.
Et à partir de quand on a commencé à s'intéresser à ces machines moléculaires, Fabien Durola, exactement ? Parce qu'il y a toujours un laps de temps très important entre justement la découverte et l'attribution d'un prix Nobel.
Oui, ça c'est une bonne question. En tout cas, les machines moléculaires artificielles, si je me trompe pas, c'est en 94 qu'elles ont été publiées en premier. Donc ça faisait déjà quelques années que les gens s'y intéressaient probablement. Donc là, ça fait bien au moins 25 ans que les gens s'intéressent à ça.
Alors, je crois que nous avons le prix Nobel de chimie en ligne. Jean-Pierre Sauvage, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Bonjour, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la Tête au Carré. On vit quand même un moment exceptionnel parce que non seulement vous êtes prix Nobel de physique, mais vous êtes aux côtés de Jean-Marie Lenne, dont deux prix Nobel de physique de chimie, dans le même bureau. J'en bafouille. Félicitations à vous. Comment vous avez vécu ce coup de fil ce matin de Stockholm, Jean-Pierre Sauvage ?
Le coup de fil de Stockholm, disons une grande surprise. La première question que je me suis posée, c'était de savoir s'il était bien authentique. Et voilà, non, puis bon, ça s'est confirmé, disons, ensuite, rapidement. Et c'était une très grande surprise. Et puis, bon, la joie vient un peu plus tard parce qu'on a du mal à réaliser. On a beaucoup de mal à réaliser.
Vous êtes heureux de l'avoir vécu avec Jean-Marie Lenne ? Cette annonce.
Ah oui, bien sûr, très. On l'a pratiquement vécu en direct, puisque moi j'ai eu le coup de fil et ensuite je suis allé le voir dans son bureau qui est tout près du mien.
Ouais.
Et on s'est mis sur Internet et on a regardé l'annonce sur le site du prix Nobel, le site Nobel. Ouais.
Et si on revient au tout début de votre carrière, au moment où vous vous dites « ces machines moléculaires, j'ai envie de travailler dessus », comment est née cette passion et tout ce domaine qui s'est créé ?
Disons la naissance d'un domaine où la genèse des idées qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est très complexe. Mais pour nous, ça a été en sautant plus ou moins d'un domaine vers un autre, en s'inspirant bien sûr de tout ce qu'on avait appris, en gardant tout notre culture scientifique. Mais quand on trouve, quand on a l'impression qu'un domaine est vraiment original, alors bon, c'est là qu'on met le plus d'efforts, qu'on met vraiment le paquet. Et voilà, quoi. Donc on a eu l'impression avec mon équipe, hein, parce que disons on n'est pas tout seul, il y a une équipe solide derrière. Quand on a l'impression qu'on est sur un créneau réellement original, donc déjà c'est satisfaisant et puis voilà, on insiste, on creuse.
Comment faire comprendre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Jean-Pierre Sauvage, justement, l'importance de vos travaux pour la plupart d'entre nous qui découvrons aujourd'hui avec vous ces machines moléculaires ?
L'importance, disons, au niveau application, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'énormes découvertes pratiques, mais disons, l'originalité du domaine ne fait aucun doute. Donc en sciences fondamentales, ce qui compte, c'est principalement de proposer de nouveaux concepts, de faire des découvertes, même si c'est un bien grand mot, qui rapportent de la connaissance nouvelle, originale, réellement originale, et ensuite à d'autres d'exploiter les découvertes de sciences fondamentales.
Une de vos molécules les plus emblématiques s'appelle la rotaxane, qui ressemble à une petite haltère. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? À quoi sert-elle et que permet-elle de faire ?
Oui, c'est un rotaxane.
Un rotaxane.
Oui, un rotaxane. Disons, ça peut se comporter comme une machine moléculaire, si on est capable de déplacer l'anneau le long de l'axe qui porte les deux grosses boules. Si vous avez un dessin devant vous, je ne sais pas.
On imagine bien une altère.
Oui, c'est bien une altère, hein, c'est exactement ça. Donc si on peut déplacer l'anneau, par exemple, de la partie gauche de l'altère vers la partie droite et vice-versa, on a déjà une première machine moléculaire très primitive. Mais une dont on a été particulièrement content, ça a été de faire un muscle moléculaire. C'est un petit peu plus compliqué que ce rotaxan, là, que vous nommez. Mais le principe est le même et on a réussi à faire une molécule qui est capable de se comprimer ou de s'allonger sous l'action d'un signal chimique, de manière un petit peu analogue au muscle strié, disons, qui constitue...
Et quelle taille fait-il ce muscle ?
Ce muscle est tout petit, il fait 6 nanomètres dans sa forme contractée, c'est-à-dire 6 milliardièmes de mètre, et 8 à 9 nanomètres dans sa forme allongée. Donc bien sûr, ce sont vraiment des tout, tout petits objets.
Jean-Marie Laine, vous êtes en ligne avec nous toujours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Pierre Sauvage qui va entrer dans une zone de turbulence nouvelle pour lui, hein, qui est celle justement de la vie d'un Nobel, vous qui l'avez vécu à partir de 1987 hein.
Ben, on suit le mouvement, mais il faut essayer de le contrôler.
Et c'est facile.
Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à refuser des choses. Il faut apprendre à faire des choix. Mais en même temps, la zone de turbulence n'est pas nécessairement désagréable. C'est pas vraiment une zone de turbulence. Une zone de beaucoup de sollicitations. Et on a le choix et une diversité. Pour avoir le choix dans une diversité de possibilités, c'est toujours agréable. Parce que, bon, on n'est pas lié à une seule chose.
Jean-Pierre Sauvage, vous allez être évidemment un homme très écouté à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire autour du monde de la science ? Est-ce que vous allez justement défendre en particulier la recherche fondamentale ?
Oh, disons oui, mon message sera certainement en faveur de la recherche fondamentale. Mais vous m'excusez, là on me dit qu'il faut absolument que je sois à un autre endroit.
Eh bien on va vous laisser.
Il aurait fallu déjà que j'y sois il y a 3 minutes. Donc je suis obligé d'interrompre notre discussion.
Merci en tout cas. Bon. Merci infiniment. On comprend tout à fait toutes les sollicitations qui sont autour de vous. Merci Jean-Pierre Sauvage en tout cas d'avoir accepté notre coup de fil aujourd'hui dans La Tête au Carré. Jean-Marie Laine, merci beaucoup également à vous de votre intervention. Et puis on peut remercier également l'ancien élève de Jean-Pierre Sauvage.
Fabien Durola qui a du travail devant lui s'il veut poursuivre les générations et avoir lui aussi son prix Nobel dans quelques années.
Voilà.
Oui, je vais m'y mettre tout de suite.
Allez, vous n'avez pas le choix, hein, Fabien Durola. Merci beaucoup en tout cas. Merci.
Allez, merci beaucoup. Et puis on est en route pour le prochain.
À très bientôt. C'était Jean-Marie Laine et Jean-Pierre Sauvage. Merci infiniment. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, dans un instant, notre dossier consacré à l'autisme. Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. We're down, we go, 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 go. So we're
So we're down we go. Way down we go.
Way down we go. Caléo à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Comment accompagner un enfant autiste, thème de notre dossier cet après-midi avec vous, Laurent Mautron. Vous êtes psychiatre, clinicien, professeur de psychologie à l'Université de Montréal et vous publiez l'intervention précoce pour enfants autistes, nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence. C'est publié aux éditions Mardaga et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Pourquoi avez-vous quitté la France il y a 20 ans pour aller travailler, mener vos recherches au Québec, Laurent Mautron?
Je m'intéressais aux sciences cognitives, c'est-à-dire comment le cerveau autiste traite l'information. Et c'était, il y a 25 ans, très difficile à faire en France parce que on suspectait toujours le chercheur de travailler pour sa propre gloire et non pas de travailler pour les gens sur qui il travaille. Ouais. Et donc, il était tout simplement presque impossible d'avoir accès à des personnes autistes pour faire du travail scientifique.
Donc, le Québec, vous donnez les outils nécessaires pour le faire?
Oui, le Québec est un pays qui était beaucoup plus orienté vers les sciences dures, en tout cas dans le domaine psychiatrique. Je pense que la France l'a partiellement rejoint,
oui.
Mais ça reste quand même, pour moi, une sorte d'Eldorado de la recherche, ouais. Montréal.
Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle vous avez quitté la France, sincèrement?
Certaines sont personnelles.
Ouais. Il y avait un contexte particulier quand même autour de l'autisme aussi.
Oui, mais bon, c'est toujours, on part jamais pour une seule raison. Mais disons, ce qui a été le déclencheur, je peux dire, c'est une phrase de quelqu'un qui avait critiqué de façon très virulente l'attitude scientifique face à l'autisme. Je me suis dit, je ne vais pas finir ma vie dans cette ambiance-là.
Oui. Et la psychanalyse dans ce contexte, est-ce que ça a joué aussi sur votre décision de quitter la France?
Oui, la psychanalyse, j'étais dans ces eaux-là au début de ma carrière et j'ai eu après une énorme rancune. J'ai eu l'impression que ça m'a volé 10 ans de ma vie.
À ce moment-là.
Oui, et j'étais une rancune personnelle, un peu comme les gens, vous savez, qui sont sortis du marxisme. Enfin, l'impression d'avoir un discours qui m'a bouffé la vie. Et la psychanalyse n'a à peu près rien à dire sur l'autisme. Je suis même pas sûr qu'elle ait beaucoup à dire sur autre chose.
Pourtant, elle s'est beaucoup fait entendre sur le sujet, hein.
C'est une drôle d'histoire. En fait, quand vous interrogez des gens maintenant, à part certains extrémistes irréductibles, beaucoup admettent qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais pour moi, j'aimerais qu'on dépasse cette affaire-là. En particulier, un de mes buts actuellement, c'est de sortir d'une espèce de guerre de tranchées entre la psychanalyse, qui me paraît maintenant une chose du passé pour l'autisme, et puis ce qui est en train, c'est très français, de la remplacer. Ouais. Comme dogme et comme dogme antagoniste.
Alors, c'est quoi ce nouveau dogme?
Alors, dans le domaine de l'intervention, eh ben, c'est l'intervention précoce, intensive, essentiellement deux courants, ce qu'on appelle l'ABA, qui est d'inspiration behavioriste, qui vient du comportement animal, et ce qu'on appelle le Danvers, qui partage certains points communs avec l'ABA, mais qui consiste à un surentraînement à des activités sociales mère-enfant.
Et là-dedans, rien ne vous plaît, au fond?
Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Le behaviorisme, je pense que, là aussi, c'est en train de s'éteindre, et c'est en train d'être remplacé par le Danvers. Si on regarde dans les pays évolués, à part l'Angleterre, qui est une merveilleuse exception...
Pourquoi?
On va le voir. l'intervention intensive reste à la fois recommandée par les guides de pratique dans tous les pays du monde, et en pratique infaisable, parce que ça coûte trop cher et ça prend trop de temps. Mmh. Alors pourquoi l'Angleterre fait exception? Parce que l'Angleterre, ils ont, comme tous les pays avancés, des guides de pratique, sauf que eux, je dirais, ils font ça plus sérieusement que les autres.
Plus scientifiquement, vous voulez dire?
Oui. Les Anglais s'intéressent aux standards. Ils s'intéressent à ce qu'il faut avoir fait comme démarche pour qu'on puisse recommander quelque chose. Et alors que la France, en particulier par le fameux guide de la HAS, le fameux rapport de la HAS, qui à 90% est une bonne chose, mais les 10% qui restent, aïe aïe aïe,
ouais.
Ils ont donc émis un guide de pratique et ils ont considéré que la force de la preuve, comme on dit, ne permettait pas de rendre cette condition-là obligatoire et remboursée. Et il faut savoir qu'au Canada, c'est grâce à l'intervention d'une autiste, celle qui travaille avec nous, Michel, ouais, Dossan, qui a empêché que le gouvernement fédéral mette en place un système dans lequel l'ABA devienne obligatoire et remboursée.
C'est votre collègue ?
Oui.
Elle est autiste ?
Oui.
Et comment est-ce que vous travaillez avec elle alors sur ces questions ?
Beaucoup. Ouais. On travaille depuis presque une quinzaine d'années. C'est une chercheure à part entière. C'est quelqu'un qui a signé des articles comme premier auteur, qui le plus souvent est quelque part au milieu dans la liste des auteurs. Mais c'est une femme d'exception. Pas seulement parce qu'elle est autiste, mais parce que c'est aussi qu'elle a une intelligence exceptionnelle. Et c'est quelqu'un qui a vraiment très profondément infléchi les orientations du groupe.
Ça veut dire quoi être autiste au fond aujourd'hui ?
Ouh là là, ça veut dire trop
parce
de choses.
Parce que vous avez une collègue autiste, mais vous pourriez en avoir une autre sous une autre forme aussi.
Oh, j'ai eu beaucoup d'étudiants. J'ai dû travailler de façon proche avec pas loin d'une dizaine de personnes autistes. Ben, actuellement, si vous suivez les critères du DSM, là, du catalogue des conditions dites psychiatriques, ce serait 1% de la population.
Oui.
Bon, ce 1% recouvre des gens qui se ressemblent extraordinairement peu.
Oui, c'est ça.
Hein, ça comprend une petite partie des gens qu'on appelle l'autisme de Kanner, du nom de celui qui l'a décrit en 43, et qui sont ce que nous on appelle les autistes prototypiques. Donc des enfants qui, pour tout le grand public, évoquent l'autisme, et qui, c'est très important, quand on testent leur intelligence au niveau non-verbal, quand on court-circuite le langage qu'ils ne possèdent pas, sont le plus souvent des gens d'intelligence normale.
Ce sont ces enfants dont nous allons parler principalement avec vous.
Parce qu'en effet, dans le 1%, vous avez également quelque part entre 5 et 10% de gens qui satisfont aux critères de l'autisme, mais qui probablement sont d'une nature pas mal différente. Ce sont les autismes qui sont associés à une condition neurogénétique identifiable et qui, eux, ont une vraie déficience intellectuelle. Donc, dans tout ce que je vais dire là, dans l'heure qui suit, ça n'aurait pas de sens pour les autistes qui ont une vraie déficience intellectuelle. Maintenant, la proportion entre les deux est très discutée. Il y a 20 ans, on disait que 75% avaient une déficience. Maintenant, selon les façons de le mesurer, on est inférieur au quart.
Alors, on va revenir évidemment sur cette critique que vous faites de l'intervention comportementale intensive précoce. Avant ça, écoutons ensemble, Laurent Montron, l'extrait de ce téléfilm qui s'appelle « Presque comme les autres ».
Une fois pris en charge, les enfants peuvent suivre une scolarité quasi normale. Les progrès des enfants ne se font pas du jour au lendemain par miracle. Ils sont le fruit d'un long travail ponctué de petites et grandes victoires.
Tu penses que Tom est autiste ?
Il est peut-être autiste, je suis pas sûre. C'est juste que quand j'ai regardé ce documentaire, les enfants m'ont fait penser à lui. On s'est tous trompés, Séverine. C'est toi qui avais raison, il faut chercher de ce côté-là.
Mais aucun médecin n'a jamais parlé d'autisme.
Mais parce qu'ils cherchent tous une maladie. Et c'est pas une maladie, c'est un handicap.
Tu peux me relire les symptômes, s'il te plaît ?
Absence de sourire ou sourire tardif, apparente indifférence aux autres, indifférence aux stimuli sonores, absence de réaction à son prénom, activité solitaire.
Laurent Montron, il y a plein de choses intéressantes là dans cet extrait pour discuter ensemble. L'autisme n'est pas une maladie d'abord, peut-être.
Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit cette phrase-là, qui est en train de devenir un proverbe ? C'est que ça n'a pas un début et une fin. Hein. Une maladie, c'est comme la grippe. Avant, on n'avait pas la grippe, et après, on n'a plus la grippe. L'autisme, on peut dire quand même que jusqu'à un an et demi, en général, on ne voit rien par ailleurs. Il n'y a peut-être pas grand-chose à voir.
Oui.
Mais à partir du moment où ça s'installe, ça se transforme très profondément au cours du développement, mais on est autisme. C'est une des raisons pour lesquelles les autistes veulent être appelés autistes, parce qu'ils considèrent que ça coïncide avec leur personne même.
On parle d'un handicap dans ces cas-là ?
Alors, on peut parler de handicap dans le sens que l'autisme peut empêcher de faire un certain nombre de choses, la plus claire étant d'accéder au langage oral jusqu'à à peu près 5 ans.
Ouais.
Ça, c'est clairement un empêchement. Mais c'est également comme, c'est pas la seule, mais c'est comme un certain nombre d'autres conditions, ça va favoriser une adaptation du cerveau dans lequel le cerveau devient meilleur pour faire des choses, certaines choses, que les personnes typiques. Très schématiquement, on peut prendre l'exemple des accordeurs de piano qui ont une meilleure oreille, quoique dans le cas de l'autiste, c'est beaucoup plus large que simplement une oreille exacte, mais le cerveau autistique est capable de faire des choses que les neurotypiques ne sont pas capables de faire, moins bien.
Ouais. Et alors cette question du diagnostic, hein, là aussi, sur la précocité du diagnostic, il y a une course au diagnostic précoce, pas seulement dans le domaine de l'autisme d'ailleurs aujourd'hui. Vous dites qu'il faut être très très prudent avec ça, il faut laisser aussi le temps de voir comment les choses s'installent.
Ben, ça dépend l'idée qu'on a derrière la tête quand on veut faire un diagnostic précoce. Le couplage que je dénonce, c'est faisons le diagnostic le plus tôt possible, de façon tout de suite de pouvoir faire de l'intervention.
Ouais.
Et si on l'a fait, ça transforme le pronostic. Et là, vous avez, c'est comme un cumul d'erreurs. Un, quand vous faites le diagnostic très tôt, vous avez un grand pourcentage de chances de vous tromper. Parce que vous avez, plus vous descendez en âge, plus vous avez de choses qui ressemblent à l'autisme et qui, 2-3 ans plus tard, vont finir par s'avérer autre chose. Ensuite, il est tout à fait faux qu'une intervention précoce change le cours de la condition. Et la première légende à ôter, parce que pour moi c'est quasiment un discours de propagande mensongère, c'est de dire que le plus tôt, le mieux, et le plus, le mieux. C'est vraiment les deux choses que j'attaque dans le livre. Oui. C'est cette idée, parce que ça ressemble à un slogan politique, ça ressemble à quelque chose, c'est facile à dire, facile à penser, alors on pense que c'est vrai.
Laurent Mautron, vous êtes notre invité cet après-midi pour parler de l'autisme. Il y a déjà beaucoup de messages pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Une plaine et des cœurs d'enfants, rien n'était plus beau qu'aujourd'hui. Le soir tombait comme un rideau. Les jeunes gens s'en allaient. Le soir tombait comme un rideau métallique. Les jeunes gens s'en allaient, rêvant à l'air libre, à l'air jeune. D'une autre plaine, et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventrait le ciel, mais nous n'avions. Heure de rien. Enfin, cette clameur qui étourdit, les nues se fendaient de sifflets. Les jeunes gens s'en allaient. L'azur se fendait de sifflets métalliques. Et les jeunes gens s'en allaient. Activement élevé au milieu de la plaine. Parmi livres cohortes, il s'en allait sur le champ, s'en allait se perdre au milieu de livres cohortes qui activement élevé un grand bûcher pour se distraire. Là tout juste au cœur de la plaine, au cœur de la plaine. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions. Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions peur de rien. Peur de rien. Peur de rien dans cette plaine. Cette autre plaine. Une autre plaine.
Oh,
Feu Chatterton, la porte Z à l'instant sur France Inter. Laurent Montron, vous êtes notre invité. L'intervention précoce pour enfants autistes et ces nouveaux principes que vous proposez pour soutenir une autre intelligence. C'est aux éditions Mardaga. Avec les courriels des auditeurs, Joël vous demande si vous connaissez les causes bien de l'autisme aujourd'hui. Est-ce que les études ont été faites pour trouver les raisons? Y a-t-il un lien entre la santé de la maman, celle de l'enfant? Où en est la recherche à ce niveau-là?
On est dans une drôle de situation. On sait que c'est génétique, majoritairement, et on ne connaît pas la nature, ni du mode de transmission, ni du mode d'anomalie génétique. Mais on sait avec une bonne certitude que l'autisme est d'origine majoritairement génétique, éventuellement avec un petit appoint environnemental, mais conditionné par ces particularités génétiques, à cause de deux choses. L'agrégation entre frères et sœurs. Quand vous avez un enfant autiste, vous avez beaucoup plus de chances d'en avoir un autre. Et à cause du fait que les jumeaux homozygotes ont beaucoup plus de chances d'être concordants pour l'autisme que les jumeaux hétérozygotes. Ça, pour des généticiens, c'est du béton.
Et la santé de la maman, est-ce qu'elle joue?
Ça dépend ce qu'on entend par santé de la maman. Si la maman peut être porteuse d'une prédisposition à l'autisme, c'est-à-dire avoir des traits elle-même, schématiquement, vous avez un certain nombre de conditions qui sont associées génétiquement à l'autisme, comme le retard de langage et comme possiblement certaines conditions dites psychiatriques qu'on trouve plus souvent chez les apparentés. Mais si l'auditeur veut dire est-ce que ça dépend de ce qu'elle mange ou est-ce que ça dépend de ce à quoi elle a été exposée, etc. Non, absolument pas.
Ouais. Et le rôle du père, parce qu'on stigmatise toujours les mères, mais
alors,
on peut aussi parler
du père,
des pères.
Peut-être le grand public sait maintenant que l'âge paternel est un facteur d'augmentation du nombre mutations dans la lignée spermatique, mais c'est pas du tout spécifique à l'autisme, et d'ailleurs ça ne vaudrait que pour l'autisme accompagné d'une condition dont j'ai dit qu'on parlerait pas. Mais plus le père est âgé, plus il a des chances d'avoir des enfants qui ont des anomalies génétiques.
Pierre nous dit, on dit que l'autisme touche majoritairement les garçons, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt un problème de diagnostic chez les filles, parce qu'ils présenteraient des symptômes différents?
Je crois que le plus tôt est un petit peu excessif parce que c'est pas l'un ou l'autre. Il est clair qu'il y a un sexe ratio. Un sexe ratio, je m'excuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Avec une loi, c'est que plus la personne autiste est intelligente et plus c'est représenté par des garçons, même s'il y a des filles qui sont très clairement autistes et qui sont très intelligentes. Ce qu'on pense maintenant, c'est que l'autisme a été défini à partir d'un phénotype décrit chez des garçons. Donc, s'il existe une façon particulière pour les autistes, pour les filles d'être autistes, elles sont sous-détectées. Mais la communauté scientifique ne pense pas que cette diminution de la détection chez les filles suffit à expliquer le déséquilibre. Ouais. On est actuellement en train peut-être de remettre en cause le chiffre de 4, 5, voire 10 garçons pour une fille, à peut-être un chiffre un peu plus bas. Mais ça n'arrivera pas à une égalité, on ne le pense pas actuellement.
Oui, il y a une lettre ouverte aux parents, justement, dans cet ouvrage.
Oui.
On parlait du diagnostic précoce, justement. Oui. Au moment de l'annonce du diagnostic, vous aviez envie aussi de vous adresser directement aux parents de ces enfants?
Oui, je pensais plutôt parler de ça peut-être à la fin parce que ça résume les recommandations d'intervention. Donc on peut en parler maintenant si vous voulez. La principale chose que j'essaie de dire aux parents, c'est que l'autisme, il est plus fort que nous. Au sens que l'autisme, c'est une chose qui existe. Et on a beau avoir une attitude orthopédique ou de vouloir faire comme si la maladie n'existait pas. Il faut, je pense, avoir la même attitude que lorsqu'on a un enfant, mettons, sourd profond, inopérable. Donc on se dit, mon enfant est sourd, je vais pas lui poser 45 implants cochléaires si les trois premiers n'ont pas marché. Il est sourd, il va faire une vie de sourd, puis on va s'arranger avec ça. Donc il s'agit évidemment pas de ne rien faire. Quand vous avez un enfant sourd, vous ne l'enfermez pas dans le placard, vous l'élevez. Mais vous l'élevez en tenant compte de sa surdité. Ouais. Et c'est ça ce que je dis qu'il faut faire.
Alors
pour
c'est ça. Et ça c'est le grand message, on pourrait dire même de votre livre. C'est de cesser de vouloir ramener ses enfants vers la norme. En fait, c'est ça.
Je pense, disons que ça se résume à ça. C'est, je pense, plus détaillé dans le sens que ça pourrait paraître plus facile à dire qu'à faire. Mais effectivement, le centre de ce message, c'est que on doit accepter que l'autisme est actuellement un variant humain.
Ouais.
Sens, il y a un certain nombre
c'est
d'humains
ça.
Qui sont autistes.
Et pourquoi chercher absolument à vouloir effacer les signes autistiques?
J'ai un petit peu la même position que j'aurais eu si j'avais eu un enfant sourd profond. Mm-hmm. Mettons, si j'ai un enfant qui est sourd profond et puis que l'implant cochléaire marche à 100%. Je ne dis pas qu'à ce moment-là, il ne faut pas faire d'implant cochléaire. Je ne dis pas ça du tout. La vie d'un entendant est pas mal plus simple que celle d'un sourd. Par contre, si il s'avère que l'implant cochléaire marche pas, eh bien, j'accepte la surdité de mon enfant et je fais avec. L'autisme, c'est la même chose. La première, ce dont je pars, c'est que l'intervention, grosso modo, elle ne fonctionne pas. Hein, la principale chose que j'ai contre les techniques d'intervention précoce intensive, c'est pas seulement le fait qu'elles sont impossibles à donner parce qu'elles coûtent trop cher, ou qu'elles seraient éthiquement condamnables dans le cas de l'ABA, c'est surtout que les transformations qu'elles font sur les enfants sont à peu près dérisoires.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui avait été diffusé dans l'émission Interception. Mon gamin est autiste, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? C'était en 2002, Laurent Montron sur Inter, justement.
Mathéo? Pour un enfant comme Mathéo, par exemple, ça a été très long de pouvoir être touché, de pouvoir accepter une ronde. Simplement, le toucher de la main était très compliqué au départ. Et puis au fil du temps, il prend plaisir à le faire et ça devient quelque chose qu'il intègre et qui lui permet d'exister, qui n'est plus dangereux pour lui. Voilà.
Parce qu'au début, ils le sont comme une agression, hein, c'est ça ?
Le toucher est impossible, alors on ne sait pas exactement ce qu'il peut ressentir, mais le toucher est impossible, le contact physique est trop inquiétant, trop anxiogène.
Tourne, tourne le moulin.
Et voilà, c'est bien.
Et on a fini. Il marche plus, tu as raison.
C'est vrai qu'un enfant qui évolue, c'est aussi notre récompense. Quand à un moment on s'arrête et on se rend compte que après toute la difficulté qu'on a vécue avec l'enfant, on en est à un point où on peut se dire bah, il va mieux. Ça c'est une grande joie. Ça peut être les premiers, on va pas dire les premiers pas, mais les premiers gestes, les premiers regards pour les enfants autistes. Ça c'est important aussi.
Laurent Montron, alors un exemple particulier là sur le contact physique anxiogène. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Je crois qu'il
comment
faut,
on peut intervenir?
On fait un petit peu un sort un peu trop grand de ça. Les autistes ont des particularités avec la perception, donc avec l'audition, avec la vision, et un peu aussi avec le toucher. Mais ça n'est pas seulement qu'ils auraient des réactions comme excessives et que les perceptions leur seraient plus désagréables, mettons, qu'elles sont pour les non-autistes. C'est que la perception dans son ensemble est plus importante. Là aussi, vous avez des avantages et des inconvénients. La plus classique, c'est pas dans le domaine du toucher, c'est dans le domaine de l'audition. Les autistes mettent leurs mains sur les oreilles quand ils entendent des bruits qui leur sont désagréables, certains types de bruits, les balayeuses, les blenders, là, toutes ces choses-là. Mais ils ont également des surcapacités à détecter des cibles visuelles, comme par exemple les lettres. Ils sont excellents pour les lettres. Ils sont excellents pour trouver des objets. Cacher votre trousseau de clés quand votre enfant autiste en a besoin pour sortir. Vous verrez que la vitesse à laquelle il est capable de faire fonctionner le mécanisme et de trouver les clés. Donc oui, il peut y avoir une hypersensibilité cutanée, mais je pense qu'on en parle trop par rapport à l'ensemble des particularités perceptives qui d'ailleurs en passant sont un petit peu l'image de marque du groupe de Montréal, dans le sens où c'est nous qui avons probablement fait la majeure partie des travaux dans ce domaine de la perception.
Donc le cerveau montre bien justement cette perception sensorielle exacerbée.
Ce que montre le cerveau schématiquement, c'est qu'un cerveau autiste va dédier plus de surface à traiter la perception qu'un cerveau non autiste. Mmh. Et il va également faire des opérations qui sont faites par les non autistes aussi dans d'autres endroits que le cerveau typique. Donc on a une réorganisation cérébrale et cette réorganisation est d'ailleurs une parmi tant d'autres raisons pour lesquelles il est complètement vain de penser qu'une médication va changer un réarrangement cérébral. Mmh. Il est aussi vain de le penser que de penser que dans un syndrome de Down, vous allez pouvoir retirer chaque chromosome surnuméraire dans chaque cellule avec une pince à épiler. Mmh. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. On a un cerveau qui va fonctionner profondément autrement et ça ne se change pas en un tour de main.
Beaucoup de réactions sur le dépistage précoce et les propos que vous avez tenus, justement, Laurent Montron. Alors d'abord, celui de Fanny. Un dépistage précoce peut éviter une mauvaise orientation parce que le comportement autiste est confondu avec déficience en général.
Alors, je suis d'accord avec ça. Ce que je dis, c'est qu'il peut falloir un an de temps avec les meilleurs outils du monde pour différencier autisme et déficience à partir du moment où on sait que l'enfant a quelque chose. Donc je suis, là aussi je dois préciser ma pensée, je suis tout à fait favorable à ce qu'on détecte très précocement qu'il se passe quelque chose. Mais ce que je critique très fortement, c'est le dépistage ciblé de l'autisme. L'autisme ayant comme plus d'intérêt que la plupart des autres conditions dans les pays avancés, on va avoir tendance à trouver ce qu'on cherche. Et donc actuellement, beaucoup d'enfants ont un diagnostic d'autisme précocement et puis plus tard, on va se rendre compte que c'était un Gilles de la Tourette grave, une déficience, une maltraitance, toutes sortes de choses qui ne se ressemblent pas énormément.
Claude nous dit, mon fils de 20 ans a été diagnostiqué autisme Asperger à l'âge de 15 ans, après des années de consultation psy. Si le diagnostic avait été posé plus tôt, dit Claude, nous aurions pu éviter des années de souffrance à notre enfant et à nos parents.
Là, je suis complètement d'accord. Mais je dirais que la souffrance que ça aurait surtout pu éviter, c'est que pour la personne Asperger elle-même, le fait de reconnaître sa condition... Un, il se dit, ça veut dire que je suis pas fou. Deux, il dit, ça veut dire que la différence que je perçois souvent depuis l'âge de 5, 6, 7 ans avec mes concitoyens dans l'école, eh bien, elle a une base vraie. C'est pas moi qui raconte n'importe quoi, et je suis effectivement différent. Et je pourrais dire qu'une personne Asperger doit s'identifier et s'adapter à sa propre différence, et que le diagnostic pour ces personnes-là, on pourrait dire qu'il est thérapeutique. Nous, on a l'habitude de dire dans le groupe de Montréal qu'un diagnostic d'Asperger pour un autiste verbal, c'est déjà un traitement.
Laurent Montron, la socialisation de ses enfants et puis bien sûr la façon d'accéder à l'intelligence des jeunes enfants autistes, c'est la dernière partie de notre discussion dans un instant. Et ce sera après Peter Gabriel, Shock the Monkey, et vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages, franceinter.fr, et les messages courts sur le site de la Tête au Carré avec le hashtag l'attaque. Peter Gabriel.
La tête carrée. Sur France Inter.
Laurent Montron, l'intervention précoce pour les enfants autistes chez Mardaga. Et beaucoup de messages pour vous des auditeurs de La Tête au Carré. Nicolas vous demande la place des traitements basés sur l'ocytocine, cette hormone de l'attachement. Est-ce qu'il y a des résultats intéressants au niveau de la recherche là-dessus ?
C'est à la fois très étudié et pour l'instant... complètement dans le domaine de l'essai clinique. Mmh. Il ne faut pas que les gens commencent maintenant. Il n'y a pas de données solides.
Ouais, donc le spray magique à base d'ocytocine, pour l'instant, ça n'est pas complètement validé. Hein. Quelle est la place de la langue des signes pour favoriser la communication avec les enfants autistes, demande Françoise.
Il y a une certaine place pour ça dans la période 2 à 5 ans, donc quand les autistes prototypiques sont non-verbaux, ils peuvent apprendre quelques signes. Mais il ne faut pas en faire un miracle non plus. Les autistes ne font pas avec les langues des, la langue des signes des choses très très différentes de ce qu'ils feraient avec le langage oral, sauf qu'ils ont plus facilement accès. C'est rare qu'on ait accès à plus de 5 à 10 signes. Mais avoir 5 à 10 signes à sa disposition, ça peut déjà éviter pas mal de crises pour l'enfant.
Lionel demande, quid de la méthode ABA ? Explication.
La méthode ABA, c'est le comportementaliste, c'est ce qui vient du comportement animal, et plus précisément de la souris blanche en cage. C'est un mode d'apprentissage de compétences qui a été très promu en France comme étant un peu l'antithèse de la psychanalyse. Pour moi, c'est l'antithèse de bien des choses. Je suis profondément opposé à cette technique. Mais pour résumer... elle est scientifiquement obsolète. Je trouve que c'est une escroquerie intellectuelle de dire que la théorie de l'apprentissage, c'est le behaviorisme. Le behaviorisme, c'est un modèle parmi 25 et ça a une toute petite place. Ça n'explique pas le comportement, ça n'explique juste le comportement de l'animal en cage et dans des conditions tout à fait spécifiques parce que ça rend pas compte du cerveau, ça n'utilise pas le cerveau autistique. Tout simplement, et parce que c'est donner pour cible d'apprentissage des acquisitions de compétences qui en fait n'ont pas de valeur adaptative. Le seul chose que qui reste de l'ABA dans les recommandations anglaises, c'est pour supprimer des comportements dangereux quand, mettons, la vie de l'enfant est en jeu. Mais pour faire acquérir des connaissances, pour moi, il n'y a pas de place de l'ABA.
Alors, encore une question de Odile, ensuite, pour arriver justement sur vos préconisations. En vieillissant, une prise en charge innovante peut-elle être envisageable pour une personne autiste ?
Absolument, mais l'innovation peut passer par des choses extrêmement traditionnelles, comme le fait d'une véritable intégration en garderie et d'une scolarisation. Je suis un avocat vraiment déterminé de l'intégration dès l'âge de 2 ou 3 ans dans les circuits réguliers, mais en changeant les buts de cette intégration. Il ne s'agit pas d'intégrer en s'attendant à ce que l'enfant fasse pareil, il s'agit vraiment d'immerger.
Alors ça, c'est votre idée, c'est cette nouvelle éducation.
Oh, c'est pas si nouveau que ça. Vous avez des gens qui préconisent ça en France depuis des années. Mais surtout, un cliché que je voudrais ôter, c'est des gens qui disent, mais ça sert à rien de le mettre en garderie, parce qu'en garderie, il reste toujours tout seul et il participe pas aux autres affaires. Sauf qu'il les apprend, les autres affaires. Il apprend que le monde fonctionne avec des règles et il apprend à pas avoir peur des autres enfants. Il apprend que, comment fonctionne la socialisation et il l'apprend même s'il la manifeste pas. C'est qu'il faut pas penser que la garderie est un échec parce que l'enfant ne va pas faire ce que font les autres enfants.
Alors justement, ce témoignage de la maman de Thomas, je suis maman d'un adulte de 38 ans, je constate que mon fils a eu un parcours très difficile, il a beaucoup changé d'établissement, avec un peu d'humour, il a un parcours digne d'un cancre. Beaucoup de choses restent à faire, pour les adultes notamment, ça reste très difficile. Nous avons autour de lui une organisation quotidienne compliquée pour maintenir ses activités et sa socialisation. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous préconisez justement, Laurent Montreux ?
D'abord, une des raisons pour lesquelles je trouve que la répartition actuelle des ressources est mauvaise, c'est que si on consacre tout l'argent pour l'intervention, ça veut dire en pratique que le ratio entre ce qu'on va consacrer aux adultes et ce qu'on consacre aux enfants est complètement débalancé en faveur des enfants. Or, les adultes autistes ont toujours besoin d'un peu de quelque chose. Donc il faut qu'il reste de l'argent. Pour les adultes. Ça me paraît le point essentiel. Maintenant, l'autre grande lacune dans l'ensemble des systèmes dans les pays avancés, c'est au niveau professionnel. C'est qu'on utilise les autistes pour des tâches subalternes comme des déficients, plutôt que de surutiliser leurs capacités et de les inscrire dès le début dans un circuit où à la fois ils sont adaptés dans un circuit régulier, mais on se focus sur leurs forces. Un point absolument capital pour l'adaptation des autistes, c'est qu'on accepte une diplomation au primaire et au secondaire dans lequel certaines matières ne sont pas scorées. Un autiste de 21 ans peut être un informaticien de génie et ne pas être capable de faire une rédaction de 3 lignes.
Mais alors, comment on accède à l'intelligence justement de ces jeunes enfants autistes ? Alors, concrètement ?
Concrètement, pour des psychologues, ça consiste à faire ce qu'on appelle de la logique non-verbale, qui est ce qui, chez les individus, les humains en général, va tester l'intelligence indépendamment de la culture et indépendamment du niveau de langage. Et les travaux de notre groupe, maintenant, qui sont menés par Isabelle Soulière chez nous, montrent que, le plus souvent, ils sont d'intelligence normale à ce niveau-là.
Oui, mais c'est pas rien de le dire quand même.
Oui.
Ouais. Non mais quand même.
C'est
complètement envisagé. Sur la prise en charge de ces enfants.
Ce qu'on nous a dit dans la communauté scientifique, mais tous les cliniciens le savaient. Nous, on l'a établi maintenant comme un fait consensuel. Et je tiens à préciser que l'article qui a établi ça de façon vraiment très solide dans un très gros journal scientifique, le premier auteur, c'est Michel Dossane.
Alors, vous dites également qu'il faut tenir compte de leur calendrier développemental. Bon, ça fait partie justement de ce que vous venez de décrire, hein, mais c'est extrêmement important parce que précisément, ces enfants peuvent s'affirmer de la même manière, mais peut-être un peu plus tard que les autres.
Hein. Voilà. Et un point aussi, une de mes cibles dans l'intervention précoce, c'est de faire 2 ans avant et de mettre tout un énorme focus, une énorme énergie pour des choses que l'enfant va développer en gros de toute façon. Je sais que ça fait hurler les gens qui font de l'intervention, mais le parcours d'un enfant autiste vis-à-vis du langage est à peu près indépendant à l'intervention qu'on fait. Il n'est pas indépendant de ce à quoi il est exposé. Un enfant autiste, ça parle pas à 3 ans. Ça va parler à 5 ans. Il fait des choses entre 2 et 5 ans, mais de la même manière qu'on ne fait pas comme les Américains faisaient il y a 40 ans d'apprendre la propreté à des enfants d'un an, ça ne sert à rien de faire un focus sur le langage oral à 3 ans. Il faut accepter que le parcours développemental d'un enfant autiste a certaines étapes qui ne sont pas dans le même ordre. Nous, on est en train d'investiguer que les enfants autistes ont l'air de commencer dans le langage oral par l'écolalie, le fait de répéter, mais surtout de commencer dans le langage par le langage écrit. Les enfants autistes sont en avance de 2 à 3 ans sur les enfants non autistes, dans une proportion qu'on est en train de déterminer, mais qui est très importante. Donc ils sont meilleurs pour l'écrit que pour l'oral. Un point capital pour nous, les autistes apprennent le langage de façon non communicative. C'est la planète Mars. Les non-autistes font pas du tout comme ça. Donc, quand on leur fait des igouigouis de vent en essayant de faire avec eux comme on fait avec nos enfants typiques, on fait quelque chose auquel ils ne répondent pas et qui ne va pas, en fait, stimuler la façon standard pour un autiste d'apprendre le langage.
Donc, cette obsession de vouloir absolument développer le langage verbal chez l'enfant autiste, c'est une fausse piste
Ce n'est pas une fausse piste en soi si on prend 10 ans, mais il faut, s'appuyer sur les mécanismes effectif d'apprentissage du langage. Quand vous apprenez le langage à un enfant typique, vous ne lui mettez pas dans le cerveau la machine à traiter le langage. Il l'a déjà, puis vous lui parlez. Mais quand vous parlez à un enfant autiste de 2-3 ans, il va stocker le langage, mais il ne vous répond pas.
Nicolas demande, est-ce que les lobbies des associations de parents d'enfants autistes ont été une bonne chose en France pour l'évolution de leur statut? Alors on pourrait dire les associations de parents d'ailleurs, plutôt que les lobbies forcément.
Dans l'ensemble, oui, mais j'ai une position très mitigée sur leur cible et surtout sur leur stratégie guerrière qui consiste à dire « si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi ». En général, j'ai plein d'amis dans les associations de parents quand je dis du mal de la psychanalyse et plein d'ennemis quand je dis du mal de la BA. Ouais. Je survis avec ces doubles inimitiés.
Bon, et au Québec, comment ça se passe alors pour la prise ne serait-ce que pour la prise en charge?
Au Québec, on a une situation tragicomique. C'est le paradis selon la France. L'ABA y est obligatoire depuis 2003. Mais comme le Québec n'a pas d'argent, il est obligatoire, mais il n'est pas appliqué avant 5 ans. Âge auquel, en fait, on ne l'applique pas parce que les enfants passent dans le système scolaire.
Donc ça vous rend très heureux, j'imagine.
Heureux n'est pas le mot. Non, parce que
le fait de ne pas l'appliquer, si je comprends bien.
Je construis pas mon bonheur sur le malheur des autres. Mais disons que c'est une situation qu'il est assez facile à caricaturer quand on parle au ministre et qu'on lui dit il faut peut-être faire quelque chose.
Ouais. Mais ils écoutent un peu ce que vous faites dans vos labos ou pas?
De plus en plus, et ça fait mon bonheur.
Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, Laurent Mautron, à l'occasion de ce passage en France, ce livre « L'intervention précoce pour les enfants autistes et ses nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence », ce livre est paru aux éditions Mardaga et bon retour donc à Montréal.
Je vous remercie.
Merci à vous. Affaires sensibles, ce sera dans quelques minutes, comme tous les jours après les infos. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Alors le thème chez vous.
Vous savez que si on récupérait tout le produit de l'évasion fiscale dans le monde, on pourrait combler le déficit public français. Vous savez ça. Donc c'est un scandale. Et donc nous allons aborder aujourd'hui le thème de LuxLeaks, ou comment au Luxembourg de grandes entreprises peuvent s'installer en payant, on va dire, très peu d'impôts.
Ouais. Voilà.
Nous en parlerons avec notre confrère et invité Nicolas Cory, cofondateur du journal en ligne Les Jours, et qui publie depuis plusieurs mois une enquête sur l'évasion fiscale au Luxembourg.
Eh bien je vous laisse rejoindre votre studio, on se retrouve juste après les informations pour Affaires Sensibles.